Le journal Anthony Montandon, bonsoir.
Bonsoir, le film amateur est à l'honneur toute cette fin de semaine à Bienne. Le centre culturel des abattoirs accueille le premier festival de ce genre et les contenus sont riches et variés, vous l'entendrez. Le Conseil des États au chevet des autoroutes. La Chambre des cantons a accepté un crédit de plusieurs milliards de francs dont une partie doit servir à élargir les tronçons surchargés aux grandes dames des écologistes. C'est un parcours bien connu auquel s'attaqueront les coureurs de la région. Le trophée de la Tour de Mauron revient ce dimanche. Le vainqueur de la dernière édition évoquera les qualités nécessaires pour boucler l'épreuve en tête. Le ciel de demain matin devrait être bien découvert, mais les nuages pourraient faire leur retour dans l'après-midi, détail Météo News, qui prévoit même quelques averses sur les hauteurs. Température maximale comprise entre 21 et 23 degrés. De mercredi à samedi, le premier festival de films amateurs de Bienne, Ciné-Bienne, prend place au centre culturel des abattoirs. Plusieurs soirées sont organisées avec différents thèmes. Le dernier soir, le public est invité à apporter ses propres films. Ce soir, un hommage est réservé au cinéaste biennois Alvaro Bizzarri. Les thèmes abordés dans les films amateurs sont très larges, comme l'explique Gabriela Neuhaus, co-organisatrice de Ciné-Bienne.
Les films d'amateurs sont des films qui ne sont pas faits avec un but professionnel, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire en même temps qu'ils ne sont pas faits de manière professionnelle. Alors il y a les films qui font les papas de leurs fils et de leurs enfants, mais il y a aussi des amateurs qui avaient le but de montrer leur monde pour un public ou bien qui ont un but comme Alvaro Bizzarri de présenter des idées politiques à un grand public.
Et est-ce que vous allez aussi diffuser des films modernes qui ont été filmés par exemple sur un téléphone ?
Non, cette fois on va seulement présenter des films qui ont été filmés avec une caméra de film. Mais pour le futur, je peux m'imaginer qu'on va aussi utiliser des réseaux filmés par des mobile phones, etc. C'est clair, parce que ça fait partie de notre vie aujourd'hui.
Des propos recueillis par Gaëtan Procureur, le programme complet est à retrouver sur notre site rjb.ch. À Bienne, toujours, le conseil municipal décide de tendre la main à La Chaux-de-Fonds après la tempête destructrice que la métropole horlogère a subie le 24 juillet dernier. Il annonce qu'une contribution de solidarité de 7000 francs sera versée. Cette somme servira entre autres à l'acquisition de 4 nouveaux arbres. Diminution des subventions et températures élevées conduisent à un report d'ouverture de la patinoire de Moutier. Ce sont les explications fournies par Jacques Stalder, le président de la société Prévost Glace. Il faudra donc attendre la mi-octobre, soit un mois plus tard, pour profiter de la glace l'an prochain. L'annonce tombée vendredi dernier a suscité les réactions des clubs de hockey et de patinage. En cause, la diminution de 25 000 francs de la subvention accordée par le conseil de ville de Moutier. Les chaleurs de septembre compliquent aussi la création de la glace. Jacques Stalder tente de trouver des solutions pour les finances et pour les clubs.
Il faut qu'on ait moins de charges financières. Puis pour éviter ces énormes charges financières dues à la fabrication de la glace au mois de septembre, au mois d'octobre, ça va coûter beaucoup moins cher. Déjà là, on va peut-être économiser 15 000 francs. Et puis après, on va solutionner les problèmes d'une manière différente. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que toutes les patinoires ouvrent le 15 octobre, et puis que tous les championnats commencent le 15 octobre, mais ils vont finir un tout petit peu plus tard, le 15 mars, jusqu'éventuellement au 31 mars. On est presque encore en hiver, là. Moi, ça ne me pose pas de problème. Par contre, de fabriquer de la glace en été, ça, c'est quelque chose à Moutier qu'on ne fera plus.
Prévost Glace a envoyé un courrier à la Régio League. On retrouve, par exemple, une demande de report pour les futurs championnats de hockey sur glace. Comment reconstruire Notre-Dame de Paris? La question était sur toutes les lèvres au moment de l'incendie de 2019. L'IGNOM Jura Bernois, la fêtière du bois, accueille demain une conférence sur ce sujet. François Calame, le fondateur de Charpentiers sans frontières, y prendra la parole. Certains voulaient reconstruire la cathédrale de façon moderne, mais l'association internationale était d'un autre avis. François Calame nous explique comment Charpentiers sans frontières a influencé la décision finale.
Au moment de l'incendie, évidemment, tout le monde s'est demandé comment on allait reconstruire. Et puis, nous étions plutôt partisans d'une restitution de la charpente avec les méthodes d'origine. Et à ce moment-là, le groupe Charpentiers sans frontières, qui est un groupe donc de volontaires, a pris l'initiative de réaliser par nous-mêmes un prototype grandeur réelle avec les matériaux d'origine de ce qui était cette charpente disparue. Aussitôt après, la Commission nationale des monuments historiques français s'est réunie donc en juillet 2020, et à partir des résultats de ce que nous avons montré, a pris la décision de restituer la charpente entière de la cathédrale à l'aide de ces procédés manuels. Parce que nous travaillons uniquement avec des procédés manuels, nous n'utilisons pas de machines.
François Calame abordera justement le fonctionnement de ces méthodes ancestrales et leurs avantages lors de la conférence à Tavannes demain. Le Grand Chasseral, mis en valeur dans un tout nouveau guide touristique, Jura Bernois Tourisme vient d'éditer un ouvrage illustré, une nouveauté qui s'inscrit dans le projet de faire rayonner la région loin à la ronde. Notre région trouve désormais son siège à Sonsbeau, dans le bâtiment de la Couronne. On rappelle que le centre de promotion de la marque Grand Chasseral a été inauguré il y a peu moins d'une semaine. Avec cette nouvelle identité régionale, Jura Bernois Tourisme a dû revoir sa stratégie de communication. Son directeur, Guillaume Davaux.
On est finalement avec cette nouvelle marque territoriale Grand Chasseral au balbutiement d'une nouvelle communication touristique. Dans un premier lieu, cette marque territoriale nous permet de rayonner de manière positive. Ça, c'est vraiment pour nous un point très important. De partager aussi cette marque territoriale avec d'autres domaines, l'économie, l'agriculture, la culture. Ça, je pense, pour notre région, c'est un point d'importance. Et puis, en dernier lieu, de nous localiser sur notre marché, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, suisse, le Grand Chasseral est un terme fort qui identifie notre région d'un point de vue géographique. Et ça, ça va changer la stratégie de communication touristique ces prochaines années.
On dit que le tourisme n'a pas de frontières, mais le Grand Chasseral, lui, il se limite au Jura bernois. Comment est-ce que vous gardez une cohérence entre ces deux concepts ?
Le Grand Chasseral nous permet, comme je l'ai mentionné, de nous localiser, de faire rayonner la région à l'extérieur de celle-ci. Après, il est très clair que les visiteurs, une fois sur place, se déplacent dans la destination Jura et Trois Lacs et que les frontières sont poreuses. Des gens qui sont en visite à Bienne montent auprès d'Orvin dans le Grand Chasseral et inversement, des gens qui visitent Mont-Soleil, Mont-Crozin vont à Seigne-Légier dans le canton du Jura. Donc les frontières sont poreuses une fois que les visiteurs sont sur place, mais d'un point de vue de la communication, il était pour nous très important d'utiliser cette nouvelle marque territoriale pour faire rayonner la région.
Guillaume Davaux au micro de Diana Dacosta dans la matinale. Le nouveau guide touristique du Grand Chasseral est disponible gratuitement sur le site internet de Jura Bernois Tourisme. La Suisse a franchi pour la première fois la barre des 9 millions d'habitants, un chiffre atteint fin juin et publié aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Sur les 6 premiers mois de l'année, 47 000 personnes ont immigré en Suisse, la plupart en provenance du continent européen. La Confédération explique cet afflux par la forte demande sur le marché du travail et le chômage structurellement bas. Les goulets d'étranglement du réseau routier suisse doivent être élargis. Après le Conseil national, une nette majorité du Conseil des États a validé ce mercredi un crédit de 13 milliards de francs. Décision prise par 34 voix contre 4. L'essentiel va à l'entretien des routes nationales, mais près de 5 milliards permettront d'accroître la capacité de 6 tronçons, dont 2 autour de Berne et 1 en Suisse romande. Le secteur Nyon-Levengeron à Genève sera aménagé pour 911 millions, alors que le trafic routier est un des principaux responsables des émissions de CO2 et du réchauffement climatique, est-ce responsable d'investir dans les autoroutes ? La vice-présidente de la commission des transports du Conseil national, la centriste valaisanne Marianne Marais.
Je crois qu'il faut voir le problème sous un autre angle. Aujourd'hui, on a des régions qui sont clairement engorgées, dans lesquelles il y a des bouchons quotidiens. Et ce qui se passe, c'est que le transit est dévié à l'intérieur des localités adjacentes. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on a tous à peu près un GPS. Donc, GPS nous signale sortez de l'autoroute et entrez un peu plus loin. On doit amener les réponses, même si pour les tenants d'obédience plutôt écologique, ça peut faire appel d'air. C'est peut-être pas faux, mais moi, j'ai surtout pensé aux habitants des localités concernées. On ne peut pas continuer à dire on ne veut pas agrandir les autoroutes et laisser les localités adjacentes souffrir.
Les quatre oppositions à l'élargissement des autoroutes émanent de 4 sénateurs romands, les Genevois, Lisa Mazzone et Carlos Omaruga, ainsi que les Vertes Adèle Torrance et Céline Vara. Écoutez la conseillère aux États Vertes genevoise, Lisa Mazzone.
Le sens de mon intervention, c'est de placer les préoccupations climatiques, de qualité de vie dans les agglomérations, lutte contre le bruit, sécurité routière au premier plan. Et la politique des transports qu'on a adoptée est en échec. Depuis une dizaine d'années, on dépense des milliards dans le rail, mais en faisant la même chose dans la route, le problème c'est qu'on annule cet effet. Et au lieu d'avoir un transfert, on voit qu'à chaque fois qu'on augmente la capacité autoroutière, quelques temps après, il y a déjà une congestion. Cette logique de un coup dans la route, un coup dans le rail, elle ne fonctionne pas. Tant qu'on reste dans cette logique, on ne va pas chercher les solutions alternatives.
Un dossier réalisé par Serge Jubin, l'association Transport et Environnement, l'ATE, va lancer un référendum contre l'élargissement de 6 tronçons autoroutiers.
Merci d'être toujours avec nous sur RJB, 18h10.
Sport. Victoria Golubic n'ira pas plus loin que le second tour au tournoi de tennis WTA de Canton en Chine. La Suricoise a été éliminée cet après-midi par l'ancienne Suissesse et désormais espagnole Rebecca Mazarova. Golubic a pourtant eu 5 balles de match avant de s'incliner en 3 manches 6-1, 3-6, 7-6. Marlène Reusser s'est elle offert un beau cadeau d'anniversaire ce mercredi avec un troisième titre européen. La cycliste bernoise de 32 ans a été sacrée sur le contre-la-montre au championnat d'Europe à Emmen aux Pays-Bas. Sur un tracé d'une trentaine de kilomètres, elle a devancé l'anglaise Anna Henderson et l'autrichienne Christina Schweinberger d'une quarantaine de secondes. Le peloton du Trophée Jurassien s'attaque ce week-end à l'avant-dernière épreuve de course à pied. Le Trophée de la Tour de Mauron est au programme dimanche matin au départ de Malraix. Tracé bien connu des coureurs de la région avec ses 11,8 km pour près de 820 mètres de dénivelé positif. Vainqueur l'an dernier en 57 minutes, le prévôtois Gilles Bailly tentera à nouveau à 46 ans de se hisser parmi les meilleurs sur cette course exigeante. Il revient sur les qualités que demande ce parcours particulier qu'il connaît par cœur.
Je ne mettrais même pas vraiment dans une course de montagne pure parce que jusqu'au 6e kill, entre guillemets, c'est quand même assez roulant. Il y a un gros mur au début, mais après, c'est beaucoup des pâturages, beaucoup des relances, des faux plats, des montées. Donc pour moi, la course, elle commence vraiment à partir de Saul, à partir du 8e. Je pense que c'est une course, il faut plus être capable d'être bon sur du vallonné avec du rythme que forcément être pur montagnard. Moi, j'ai vu quand il y avait les Suisses, je me suis fait battre par des gars qui n'avaient jamais fait de montagne. Parce qu'ils avaient la pêche, ils avaient la gnaque, mais par contre, ils étaient très bons sur un semi-marathon, par exemple. Surtout que la fin, c'est quasiment plat. Ça sert à rien de mettre une mine et puis de finir premier à la première côte, puis après de se faire avaler, quoi. Il faut toujours, entre guillemets, un petit peu en garder sous la semelle. Et puis c'est ça qui n'est pas évident. C'est pas une de ces courses où on part à 500, puis on finit à 1500 mètres d'altitude, par exemple. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt être bon sur une heure de course effort, style un semi-marathon. Je la compare aussi aux tirades, parce que les tirades, ça monte, ça redescend, il y a du plat. Mais je ne la compare pas vraiment à une de ces courses de montagne pure de 10 kills avec 1000 mètres de dénivelé. C'est encore autre chose.
Le Trophée de la Tour de Mauron, c'est dimanche matin. Départ de Malraix à 9h30. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition. Votre prochain rendez-vous à l'antenne avec l'information, c'est dans le flash de 18h30. Très belle soirée.